Si vous voulez en savoir davantage sur la star américaine, rendez-vous sur le site rfimusique.fr. Il est 18h10 ici à Paris.
Radio G. 101.5 FM.
Hôtel de ville d'Angers, au guichet des titres d'identité.
Mais c'est pas possible. Donc là, j'ai mes photos et vous êtes en train de me dire qu'elles sont pas conformes. Putain!
Monsieur, calmez-vous, restez poli.
Non, t'étais en train de me dire là que j'aurais pas mon passeport à temps du coup.
On va trouver une solution.
Putain, mais je vais péter les plombs! Tu prends ces photos, point!
Monsieur, calmez-vous, rasseyez-vous s'il vous plaît.
T'es vraiment qu'une fonctionnaire à la con, putain! J'en ai pas fini avec toi, espèce de connasse!
L'outrage à l'égard d'un agent chargé d'une mission de service public est puni d'une amende de 7500 euros. Les agents d'Angers-Loire Métropole sont là pour vous. Respectez-les.
18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G. Présentée par Pierre Benoît.
Ça sent la fin de saison, clairement, pour Topette, puisque c'est la dernière ce soir d'une grande voix de cette émission. Bonsoir, Mathéo.
Ah, bonsoir Pierre-Benoît.
Tu savais pas que c'était ta dernière ou tu savais pas que c'était la grande voix?
Tu viens de me l'annoncer, donc non, je ne savais pas, je suis très triste Pierre-Benoît.
Ah bah attends, on va faire le calcul rapide, dans deux semaines on sera le... ah bah non, c'est pas du tout la dernière.
Et bah voilà, Pierre-Benoît, mince, t'as déjà plus envie de me voir.
Ouais, j'étais un petit peu pressé, même si dans les coulisses on sait que Mathéo continuera la saison prochaine avec peut-être de nouveaux projets.
Ouais, j'en avais quelques-uns pour en discuter en off et puis on reviendra avec plus de projets l'année prochaine.
Voilà, ça c'est du teasing, peut-être dans deux semaines on aura plus d'informations, en tout cas pour l'instant, fin d'émission, on aura une chronique d'actualité avec toi, un peu plus que local. De quoi on va parler ce soir?
Même totalement pas du tout local, on va parler du Festival de Cannes et de la Palme d'Or, qui permet du coup de rebondir sur le cinéma iranien, qui est un cinéma contestataire qui existe depuis bien longtemps maintenant, et c'est très bien que c'est un cinéma qui sorte vainqueur d'un festival comme ça, parce que voilà, ça raconte plein de choses, et ça dit plein de choses aussi sur l'état de l'Iran, et sur l'apport de l'art sur les populations.
Et vous le savez depuis les émissions spéciales avec Premier Plan, que Mathéo est un grand amoureux du cinéma, du cinéma d'auteur même, donc voilà, c'est pour ça que tu vas nous faire cette chronique autour de 18h30, un petit peu après même environ. On aura aussi des invités, bien sûr, on sera avec Amélie dans quelques instants pour parler du THV, le théâtre de l'hôtel de ville de la ville de Saint-Barthélemy d'Anjou. C'est la fin de saison là aussi, il y a moins d'actualité, mais il y a un grand temps fort encore, on va être du côté du salon de coiffure de Marivonne, il me semble. On va parler de villuminologie, j'ai pas ma feuille sous les yeux, donc je suis pas sûr du terme, mais Suzanne sera avec moi pour m'épauler dans cette mission. Bonsoir Suzanne.
Bonsoir.
Tu connaissais ce terme?
Alors pas du tout, vraiment pas, et je suis curieuse de découvrir un petit peu ce que c'est et le programme.
Et ben voilà, on aura plus d'infos dans quelques instants. Topette, c'est parti tout simplement pour ce soir. Hier c'était férié, on vous l'a dit. Demain on sera avec la compagnie du Poulpe qui fait sa campagne estivale. Théophile aussi qui sera en concert du côté de la maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin dans la salle Camille Lepage avec CJ Bess en première partie le 19 juin, je sais plus si je l'ai dit. Et jeudi on sera avec le Focus Festival normalement. Et peut-être même encore une autre surprise, on sera du côté de Mazé. Topette, c'est parti pour ce soir.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
Et avant toute chose, on fait un point sur l'actu locale à Angers. Ce soir, c'est avec Suzanne et Maxence. Bonsoir Maxence, bonsoir Suzanne.
Bonsoir.
Donc on commence tout de suite avec la gestion des gens du voyage dans l'agglomération d'Angers.
Ce mardi 10 juin, le schéma d'accueil des gens du voyage d'ici 2031 est voté au conseil d'agglomération d'Angers-Loire Métropole. Un vote important puisque 2/3 de la population des gens nomades du Maine-et-Loire stationnent dans les territoires d'Angers-Loire Métropole. Depuis 2018, l'agglomération multiplie les efforts pour améliorer l'accueil des gens itinérants. Des personnes itinérantes. Aujourd'hui, il y a 2 aires permanentes, dont une grande à la Baumette pour les longs passages, mais aussi des petits espaces pour les passages plus courts. Le plan vise à créer de nouvelles aires sur le territoire pour mieux accueillir ces populations. Dans le dossier, on trouve 4 terrains familiaux locatifs ou équivalents pour 16 personnes au total à Angers d'ici 2031. À Avrillé, une aire permanente d'accueil mutualisée avec Montreuil-Juigné est prévue, soit 24 places au total. À Beaucouzé, Loire-Authion et Trélazé, ce sont des aires permanentes d'accueil qui sont prescrites. Bouchemaine, Briolet, les Poncés, Longnay en Anjou, Mur-et-Rigné, Rive-du-Loir en Anjou et Verrières en Anjou, tant de communes qui font partie du plan voté ce mardi.
Et j'en avais parlé la semaine passée dans l'agenda culturel, la bibliothèque Saint-Éloi ouvre ses portes.
Et oui Suzanne, c'est aujourd'hui qu'ouvre la bibliothèque éphémère de Saint-Éloi à Angers. Comme son nom l'indique, elle se situe place Saint-Éloi, en face du musée des Beaux-Arts. Elle restera ouverte durant toute la durée des travaux de la grande bibliothèque Toussaint. Cette dernière est fermée depuis avril pour une période de 3 années de travaux, puisqu'elle ne correspond plus aux normes actuelles. Des travaux de rénovation nécessaires sur le plan de l'isolation thermique, mais aussi de l'accueil des personnes à mobilité réduite. Place Saint-Éloi, ce sont plus de 40 000 documents qui ont été déménagés depuis la bibliothèque Toussaint. Cela représente plus de 750 tonnes de livres, BD, CD ou encore de DVD. D'après Nicolas Duftel, adjoint à la culture d'Angers, c'est l'équivalent en poids de 337 éléphants. Pour les horaires, on garde les mêmes que celles de la bibliothèque Toussaint. Le mardi et le mercredi, 9h30-18h30. Le jeudi et le vendredi, 13h-18h30. Et le samedi, 9h30-17h30.
Et on finit avec du sport et encore un Angevin qui performe à l'international.
Je vais m'adresser aux fans de foot Angevin. Vous souvenez-vous de Jean-Matteo Baoya, cet ailier gauche technique et rapide qui a quitté les rangs du SCO l'an passé pour s'envoler en Allemagne du côté de Francfort. Eh bien, saviez-vous qu'il s'apprête à jouer l'Euro Espoir avec les Bleuets de Gérald Baticle? Et même mieux que ça, il sera très probablement titulaire dès le premier match face au Portugal demain soir, suite à son très bon match mercredi dernier contre l'Ouzbékistan. Un air de revanche pour ce premier match entre Français et Portugais, puisque l'Euro U17 s'est terminé le 1er juin avec une opposition France-Portugal justement, qui s'est conclue sur le score sévère de 3-0 pour les Rouges et Verts. Jean-Matteo Baoya, c'est 33 matchs dont 9 en Ligue Europa cette saison. Une bonne saison tout comme son équipe qui termine 3e de Bundesliga et qui se qualifie donc en Ligue des Champions pour la saison prochaine. De ses débuts au foyer Espérance Trélazé à sa formation au SCO jusqu'à la Ligue des Champions, l'ascension de Baoya est inspirante et donne le droit de rêver pour le jeune joueur de 20 ans.
Merci Suzanne, merci j'allais dire Mathéo, Maxence non parce que Mathéo c'est lui qui faisait le flash, je le voyais qui te regardait attentivement.
Nostalgie mais t'as trouvé des bons remplaçants.
Un nostalgie c'est notre fréquence Mathéo, on est sur c'est Radio G 101.5 FM, vous êtes à l'écoute de Topette ce soir. Avant d'accueillir notre invité, on vous rappelle, Suzanne, si je te dis du foin dans les granges, ça t'évoque des choses.
Évidemment.
Du foin dans les granges qui commence le 13 juin à la pointe de Bushmen avec une programmation, alors on le dit plus comme ça, mais c'est Music World très inspiré aussi jazz, Louisiane et compagnie, avec The Dab Dixie par exemple qui sera avec l'orchestre du collège de Jacques Catelineau à Saint-Florent-le-Vielle, accompagné de Lynn Wolf ensuite et de Alissa Galvan Band. Radio G est partenaire, on a toutes les infos sur notre site internet ou sur le site internet de Dufoin dans les Granges, c'est sur c-parici.fr/2025. Et maintenant on accueille notre invité de la soirée.
L'invité de Topette sur Radio G.
La villuminologie, très précisément. Bonsoir Amélie.
Bonsoir.
Amélie Chana, tu es chargée de communication du Théâtre de l'Hôtel de Ville de Saint-Barthélemy d'Anjou, plus communément connu sous le sigle THV. Alors toi comme moi, ça faisait longtemps qu'on s'était pas croisé dans Topette, et parce que la dernière fois, t'étais venu parler de quoi pour le THV, je me rappelle même plus, tu vois.
Mais c'est une bonne question. Bon. Je sais plus non plus.
Bon, on écoutera les podcasts pour savoir. En tout cas, beaucoup moins d'actualité puisque c'est la fin de saison aussi pour le THG. J'imagine qu'on est déjà dans les starting blocks. Gurval doit avoir sa programmation quasiment ficelée pour la saison prochaine, non?
Elle est bouclée. Elle est bouclée. Et effectivement, là, on est sur finalisation de la brochure. Et c'est la période un peu intense pour nous, surtout pour moi. du coup, ça va sortir mi-août, mais début mi-juillet. Vous pourrez en tout cas la découvrir sur notre site internet.
Oui, voilà, les présentations de saison, c'est soit en fin de saison, soit en début de saison. On a tout l'été entre juin et septembre.
C'est
ça dépend.
Et là, ce sera assez tôt parce que finalement, on avance un peu les présentations de saison. Ce sera le 4 et le 6 septembre. Voilà, et on a une petite session donc on fait une présentation classique cette année à 20h avec présentation suivie d'un spectacle, et puis on fait une proposition également pour les familles le samedi 6 de 14h à 18h. Voilà. C'est une petite nouvelle formule.
Vous avez déjà les dates. Alors pour redonner les Gurval Reto, qui est le directeur du THV, programmateur aussi, qui est venu dans Topette. Et puis effectivement, merci Amélie de prendre le temps, puisque c'est toi, vu que tu es à la chargée communication, de prendre le temps de venir dans Topette, malgré voilà le bouclage de cette brochure qu'on a dans les mains. Alors c'est celle de 2024-2025. On va en continuer à en parler, puisqu'elle n'est pas tout à fait terminée. Là, on est sur la villuminologie, mais il reste encore peut-être 2-3 ateliers ou 2-3 informations. Peut-être non, c'est fini.
Non, vraiment.
Ah oui, c'est vraiment la dernière.
C'est vraiment la dernière.
Voilà, c'est ce qui reste à table seulement. Flop et Julie Dumont. Alors peut-être avant d'en parler quand même sur les temps forts qui ont ponctué la saison, si on devait faire un petit bilan, ou en tout cas les dernières semaines qui se sont passées, les spectacles, comment a vécu le THV, comment a rythmé, vibré ce théâtre?
Eh ben, c'était une belle année. C'était vraiment une très belle année. On a retrouvé un public vraiment qui a répondu présent quasi à toutes les dates. Ça faisait plaisir de revoir toute cette salle bondée, voilà, parce que réellement ça a été un peu ça a été long entre la fin du Covid et puis là, de retrouver vraiment des belles salles comme ça. Donc c'était plutôt une belle année avec un festival jeune public Zone de Turbulence qui aura lieu la prochaine édition en 2026. Donc voilà, en tout cas on espère. Donc vraiment voilà, très belle saison.
On a le sentiment de retrouver enfin ce qu'on connaissait par exemple en 2019, 2018.
Ouais, les belles années, ouais carrément.
Bon, les années normales sont de retour et tant mieux si les salles sont combles, les publics aussi, puisque j'imagine qu'on faut rappeler quand même que le THV s'adresse un petit peu à tout le monde. Il y a les enfants, mais pas que, les familles et puis aussi les personnes qui sont peut-être un peu moins des fois branchées culture. On essaie de parler à tout le monde.
À tout le monde. Tout à fait, on essaye de développer aussi les... Enfin, ça, c'est ce que mène Maud, qui est médiatrice au THV, et qui, justement, essaye de mener des projets avec des structures un peu différentes que le public, on va dire, lambda qu'on a sur les soirs de spectacle. Donc, il y a les scolaires, il y a des personnes âgées, des personnes avec des handicaps, des personnes qui sont même très éloigné de la culture et tout ça, donc voilà, c'est vraiment, on essaye effectivement de rendre accessible à tout le monde.
Alors nous, on a une personne qui est assez éloignée de la culture dans l'équipe. Ah bah, il s'empare tout de suite du micro spontanément. Maxence, le THV, alors toi, t'es pas en juin, est-ce que le THV, t'en avais déjà entendu peut-être parler au-delà des frontières de l'Anjou?
Pas du tout, non, ça me dit pas grand-chose, mais...
Tu veux dire qu'on n'est pas encore connu mondialement, quoi.
Il habite à Ancenis.
Ah,
mondialement, ça va, on n'est pas très loin non plus.
On va dire que la barrière 44-49, ça l'a séparé encore, mais elle n'est pas encore à atteindre là-bas. Mais...
Ok. Peut-être que j'ai encore un boulot à faire, alors j'ai encore du taf.
Peut-être que c'est de ma faute aussi que je m'informe pas forcément de ce côté-là des Pays de la Loire, mais
non, c'est... Alors Maxence à la vingtaine à peu près, on a Suzanne aussi qui est encore plus loin, elle vient carrément de Vendée. Les théâtres de poche, je sais pas si on peut dire ça comme ça, enfin à l'échelle d'un territoire ancré, peut-être qu'on a ça aussi dans ton secteur, ça t'évoque des choses?
Pas vraiment, c'est vrai que moi je suis dans un petit village, donc on n'a pas vraiment de gros festivals ou de gros événements, en tout cas comme celui-là. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi quand je suis à Angers de découvrir un peu ce qu'il y a autour, et notamment villéminologie.
Ouais. Il n'est pas facile à dire celui-là.
Ouais, on va le dire, on va s'entraîner pendant la pause musicale à le dire. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc il pourrait y avoir une succursale en Vendée, hein, c'est ce que laisse sous-entendre Suzanne pour le THV. Comment on communique? La question qui est derrière, c'est comment on communique depuis le THV vers ces publics-là qui sont, on le sait, les jeunes sont un peu pas éloignés, mais bon, ils s'en vont
un
petit peu.
Ils s'intéressent un peu moins,
voilà,
tu veux
c'est
dire
ça.
Comment on arrive à les
sur les réseaux sociaux, peut-être qu'il y a des choses.
Il y a les réseaux sociaux. Après, c'est aussi une de nos questions réellement, parce que il y a les jeunes, enfin les jeunes entre, on va dire, les 3 à 10 ans. Donc eux, ils sont assez faciles à choper parce qu'on chope les parents. Mais effectivement, il y a cette les ados et même les étudiants, en fait, ça reste encore des publics qui sont difficiles à faire venir au théâtre en dehors des propositions scolaires. Voilà, c'est on y travaille, mais c'est ils sont jamais là où on les attend, donc voilà, c'est Donc on va dans les forums des étudiants, on va dans les comment le campus Day, enfin qui se fait à Angers et tout ça pour vraiment essayer de choper les étudiants. On essaye de voilà, on essaye d'être un peu là où ils sont, mais je crois que
sur les écrans peut-être, il faut les choper sur les sur TikTok. Je les vois beaucoup sur les téléphones, c'est pour ça.
Ouais, c'est pas faux. Mais bon, si enfin voilà, il faut pouvoir aussi pouvoir décupler tous nos outils de com et être sur tous les réseaux sociaux, c'est un vrai travail et c'est au quotidien.
C'est une autre mission aussi. Est-ce que c'est la mission centrale du théâtre de l'Hôtel de Ville?
Non. En tout cas, pas aujourd'hui. Voilà. On est sur Facebook, Insta et déjà, on est une petite équipe. Alors voilà, on essaye d'être, on est polyvalent en fait, et donc on essaye de faire au mieux, mais on n'arrive pas non plus à être partout.
Alors Amélie, ce soir, on parle du THG, mais en fait, on va même pas être dans le THG. On va sortir, on va quitter le parvis de l'Hôtel de Ville, traverser un tout petit peu la rue, aller en face, coiffure Marie-Yvonne. Voilà, on en a déjà parlé de Flop et de Julie qui l'accompagne. On va parler donc de Villuminologie. Et ça, on va s'entraîner à le dire pendant la pause musicale. On écoute Hond Beken de Yet Van Der Steen sur le 101.5 FM. Hond Beken de Yet Van Der Steen sur le 101.5 FM de Radio G. Effectivement, on est un peu moins dans le local, Mathéo, je te l'accorde, mais c'est une musique qui fait plaisir. Non, ton micro n'est pas ouvert, ce sera tout à l'heure pour la chronique d'actualité sur le cinéma iranien. Avant tout ça, on reste avec nos invités.
Topette sur Radio G.
Notre invité, avec une seule actualité, puisqu'on est toujours avec toi Amélie Chana, chargée de communication du THV, le théâtre de l'Hôtel de Ville de Saint-Barthélemy-d'Anjou. Saint-Barthélemy-d'Anjou, pour les non-angevins, vous vous situez un petit peu par rapport à l'agglo?
Oui, carrément, j'ai mon père qui a travaillé là-bas, donc ça aide un peu.
Ok, d'accord. Et Suzanne, Suzanne.
Largement, j'essaie de un peu mettre des points dans la ville, on verra bien.
C'est à droite, sur la carte.
C'est vers là.
Un petit peu à droite. Il reste qu'une actualité, donc, Amélie, ce soir à évoquer, mais on va quand même prendre le temps de l'évoquer. La Villuminologie. On s'est bien entraîné à le dire pendant la pause musicale. Ville, lumière. La science de la lumière dans la ville, d'une certaine façon. J'imagine qu'il va y avoir des choses qui vont éclairer, l'ancien salon de coiffure, Marie-Yvonne. C'est ça l'idée?
C'est ça l'idée, mais pas que. Voilà. Depuis 5 ans, en fait, le THV propose, enfin, imagine des projets de territoire avec les habitants et demande à des artistes donc de monter des projets. Et là, cette année, on a demandé à Flop et Julie, qui sont nos artistes associés depuis 3 ans. Donc, c'est aussi la fin de ce compagnonnage avec eux. Et on leur a demandé donc d'explorer la ville afin de proposer de la découvrir sous un autre angle. Et en l'occurrence, ils ont mis en pratique donc ce qu'ils font le plus souvent, à savoir la bricoluminologie. Voilà, Flop, il est c'est un artiste qui touche énormément à la lumière et qui en même temps manipule beaucoup d'objets pour avec des petits objets, de la récup, plein de choses en fait, il va créer des scènes qui ensuite va mettre en lumière en projection. Je sais pas trop comment, j'arrive pas trop à trouver les mots.
C'est
mais...
pas évident à visualiser. Ouais, c'est ouais. C'est un artiste éclairé déjà. Ça, on peut le dire. Oui, ça se joue avec les effets de lumière, pas tant la lumière que les effets de lumière qui peuvent être faits sur des objets, par exemple, qui sont mis en scène.
Ouais, exactement.
Moi, j'imagine des marionnettes pour ce que j'avais pu entreapercevoir.
Pas tant des marionnettes, c'est vraiment un genre de théâtre d'ombre.
Oui.
Voilà, qui c'est de la projection d'objets. D'objets et de choses et d'autres, mais et en plus de ça, il utilise plein de petits moteurs, des petites choses pour faire pour vraiment que ça s'anime et qu'il s'y passe des scènes, des paysages. C'est plutôt des univers très très poétiques, très oniriques. Donc on est là-dedans, et l'idée de cette ville luminologie, c'est de faire un circuit, donc de déambuler dans les rues autour du théâtre, et plusieurs endroits vont être éclairés comme ça, donc à savoir des fenêtres de l'hôtel de ville, le salon de coiffure, enfin l'ancien salon de coiffure Marivonne, dans lequel en fait ils ont investi on va dire leur bureau. C'est ils ont monté un club de bricoluminologie pendant 3 ans. Ils ont animé des ateliers autour de leur travail. Et chaque année, en fait, ils proposaient une nouvelle vitrine. Voilà. Qu'ils faisaient avec les participants. Et là, en l'occurrence, donc, ils ont mené plusieurs ateliers avec l'IME de Saint-Barth, avec la paroisse de Saint-Barth, avec nous, l'équipe du THV, les agents de la ville de Saint-Barth et puis d'autres ateliers encore. Et l'idée était de construire effectivement plusieurs vitrines comme ça, à dissimuler tout autour du théâtre, pour que les gens puissent se promener et découvrir en fait tous ces tableaux.
C'est pas juste
ont été éclairés.
Hors les murs, c'est vraiment on investit la ville. Alors pour se figurer, pour les plus fidèles d'entre vous, les projets qui avaient été faits auparavant, c'était correspondance, c'est ça, les portraits
les
aussi,
portraits, ouais.
Où vraiment on implique les gens. En fait, même si les personnes sont que de passage, elles peuvent être embarquées, prises comme ça par la lumière, en fait.
Ouais, c'est exactement ça. L'idée, c'est vraiment de que les gens, les habitants de ce quartier-là, en tout cas, viennent et le découvrent sous un autre angle.
Alors Suzanne découvre la bricoluminologie. Putain. Pardon, excusez-moi. Oh là, je peux pas le couper, mais c'est pas grave. Des questions peut-être par rapport à cette villuminologie. Celui-là, je me suis entraîné.
Bah oui, justement, je me posais des questions par rapport à cette discipline qui était originale, mais du coup, vous avez répondu à ma question et puis savoir un peu à quoi on peut s'attendre dans cette balade, si c'est juste une histoire qu'on raconte ou si simplement des scènes, des moments, on va dire.
C'est des moments, en fait. Ouais. C'est vraiment, il y a plusieurs tableaux qui seront mis en place. Nous, on les connaît pas, on sait pas du tout ce qui a été fait pendant ces ateliers-là, donc on va découvrir aussi. Mais voilà, l'idée, c'est de contempler en fait ce qui sera présent sur les fenêtres, dans l'église également aussi. Voilà, c'est des projections.
Maxence, c'est une question. Je suis très étonné.
Non, mais moi, je suis un peu curieux de savoir si, donc, c'est des lieux emblématiques de la ville, et les artistes se sont inspirés de, je sais pas, de l'histoire du, des bâtiments ou de raconter une histoire à ce moment-là ou plus de l'architecture du lieu.
Est-ce que le lieu a une incidence sur l'œuvre proposée en fait?
Ouais, ouais, non. Pas du tout, pas du tout. C'est vraiment, ils investissent les bâtiments qui sont autour du théâtre et pour justement mettre en lumière tous leurs travaux.
Ok. Ouais. Un grand moment d'émotion en perspective, j'imagine, puisque tu l'as dit, Amélie, c'est la fin d'un long parcours avec Flop et Julie. Peut-être des choses qui vont se passer à la fin, des remerciements de la part de Global, de l'équipe du THV.
Alors ça, sûrement, mais l'idée c'était aussi de se retrouver tous et de faire un moment assez festif. Donc on a organisé un peu une soirée autour de cette balade poétique. Donc il y aura une fanfare qui s'appelle la fanfare de la touffe. C'est une fanfare un peu particulière parce que c'est une fanfare qui est éphémère, qui est complètement improvisée. On fait appel à une... là, à l'heure actuelle, on faisait le point ce matin, on est à 75 participants. Donc c'est chouette parce que les gens ont répondu à cet appel. Et l'idée, c'est de défiler justement dans les rues et de fanfaronner tous ensemble. Donc l'idée c'était une fanfare de non musiciens, voilà, qui sont accompagnés quand même de quelques musiciens pros, mais le reste c'est des non musiciens. Donc
ça va avoir aussi son charme, sa touche personnalisée encore plus ancrée dans c'est des habitants et habitantes finalement.
C'est ça, exactement. Et puis on a également à 20h15, parce qu'il y a tout un programme, donc effectivement j'ai pas donné les horaires, mais à 20h15 il y aura également un orchestre, ce qu'ils appellent l'orchestre de chef. Donc c'est 6 artistes du Maine-et-Loire qui se sont regroupés pour proposer de revisiter les, enfin même pas de les revisiter, mais de refaire les hits radiophoniques des années 60 à 2000, juste avec des instruments d'enfants, voilà, des jouets.
Et ça promet d'avoir un contraste, voilà.
Oui, tout à fait.
Et d'attraper l'oreille. Justement, parce que Maxence et Suzanne, je les sens motivés pour peut-être y aller, du coup, à cette grande soirée. Suzanne, sur les infos pratiques, est-ce que tu avais des questions? Tu te demandais comment réserver, peut-être?
Oui, c'est ça. Je me demandais parce que j'ai vu que c'était gratuit et accessible à tous, mais est-ce qu'il faut quand même réserver sa place en avance pour être sûr de pouvoir y assister?
Non, du tout. Non. Vous venez comme vous êtes, au moment que vous voulez. Ça se passe entre 20h et minuit. Donc voilà, la soirée est longue.
Oui, Maxence.
Mais est-ce qu'il y a, comment dire, comme c'est avec un jeu de lumière, c'est plus intéressant quand même de voir ça quand il est dans le noir complet ou dès 20h ce sera...
Pour la balade, hein, la balade poétique, c'est mieux d'arriver... Ouais. Donc elle commence à 22h30, effectivement, à la tombée de la nuit. Mais sinon, effectivement, donc il y a les concerts en amont, le premier à 20h15. Et puis la fanfare de la touffe à 21h30 qui nous emmène justement à 22h30 pour la balade poétique.
Et puisqu'on commence à le faire, on va redonner les infos pratiques tout à l'heure en fin d'émission. Tu pourras nous redire si on a oublié un temps fort aussi de cette soirée. Donc on rappelle quand même, ce sera le 20 juin à la tombée du jour. Comme ça, on prend pas trop de risques s'il pleut, si le temps est un peu plus gris, ce sera peut-être un peu plus tôt.
Non, venez dès 20h parce que du coup, on a même organisé, on monte une petite guinguette éphémère avec des food trucks et tout ça. Donc
tout est éphémère, donc saisissez le moment.
C'est ça, c'est maintenant. C'est venir.
Right now. Alors nous maintenant, tu restes avec nous Amélie, bien sûr, on va faire un petit détour par la chronique de Mathéo dans Topette.
Mais la panne d'or.
Nous sommes ici avec tous ceux qui souffrent, non par opinion politique, mais par le cœur, par la compassion, la tendresse, par une humanité partagée, pour la liberté retrouvée. L'art provoque, questionne, bouleverse. Il désarçonne l'ancien et surprend une dimension insoupçonnée en nous. L'art mobilise l'énergie créatrice de la part la plus précieuse, la plus vivante en nous. Une force qui permet de transformer les ténèbres en pardon, en espérance, en vie nouvelle. C'est pourquoi nous avons choisi, pour la Palme d'Or, un simple accident de Jafar Panahi.
Le Festival de Cannes s'est fini il y a 2 semaines au terme de 11 jours de compétition acharnée qui ont vu se battre nombre de réalisateurs très connus, les frères Dardenne, Wes Anderson, Ari Aster, Julia Ducournau et bien d'autres. C'est une légende de son pays, Jafar Panahi, qui repart avec la Palme d'Or. Un festival marqué par les déceptions de tous les côtés, que ce soit en compétition mais aussi en dehors, avec le premier film finalement trop classique de Scarlett Johansson ou encore l'énorme beat critique du dernier Mission Impossible. Cette victoire du cinéma iranien nous prouve alors une chose, la force contestataire de ces artistes contre le régime des Mollahs nous livre des récits aussi authentiques qu'extraordinaires. Déjà, l'année passée, pour beaucoup, le film qui aurait mérité la Palme d'Or était iranien. Les graines du figuier sauvage de Mohammad Rasoulov, histoire de famille fracturée, divisée en deux générations opposées entre emprise du système et rêve de liberté porté par la jeunesse et un mouvement, Femme, Vie, Liberté. C'était indéniablement l'un, si ce n'est le meilleur film sorti en salle en 2024. C'était aussi le moment fort du 77e Festival de Cannes avec ses acteurs et ce réalisateur, les photos à la main qui montent les marches. Le cinéma iranien n'est pas le seul à se positionner donc comme l'art de toutes les dénonciations autoritaires qui fait régner le silence, mais il est peut-être aussi celui le mieux positionné dans l'opinion globale. Cette force effective, véritable du cinéma qui va nous intéresser aujourd'hui focus donc sur comment la résistance par l'art peut à la fois s'exporter, garder ses bases contestataires et conforter un peuple dans ses envies révolutionnaires.
میگم دوز این داروه شاید زیاد بوده کارشو ساخته
نیم ساعت پیش چکش کردم الان فقط باید منتظر باشه
تا کی باید منتظر باشین؟
تا وقتی که بهوش بیاد
چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش یارو میخواییم بکنیم تو گور
حق داره بدونه چرا گرفتیمش
نه بابا قشر خاکستری هم بالاخره زبون واکر اینقدر حرف نزدی ببینی باده داره از کدوم ور میاد بپری تو باد عیزه به کسخل جان این بابا صدا تو شنیده تو هر گوری باشی 2 دقیقه‌ای پیدات میکنه کون تو پاره میکنه حالا ببین.
Il faut tout de même savoir qu'il y a une base éducative des Iraniens au cinéma. Beaucoup d'entre eux ont grandi avec, puisque ce dernier émerge dès le début du XXe siècle sous la dynastie Qajar. Rapidement, il devient un loisir populaire avec des films muets importés, puis des productions locales qui prennent de plus en plus de place. C'est ainsi qu'au milieu des années 50, sous le règne du Shah Mohammad Reza Pahlavi, cette industrie cinématographique se développe, axée sur le divertissement, mêlant mélodrames et films commerciaux, bien loin des standards actuels. Mais les choses vont bouger dès 1960. Quelques réalisateurs comme Darius Merjoui et son film La Vache amorce un cinéma plus réaliste et engagé, influencé par le néo-réalisme italien. Des films qui interrogent les réalités sociales et rurales, posant les bases d'un cinéma véritablement contestataire, avant que 10 ans plus tard, ce nouvel élan soit stoppé en plein vol. 1979, révolution iranienne, bouleversement de la société. Les productions artistiques se voient imposer de lourdes contraintes. L'arrivée au pouvoir de l'ayatollah Khomeini entraîne la censure et la fermeture temporaire des salles de cinéma jugé immoral. Pourtant, comme dans n'importe quelle dictature, le cinéma est reconnu par l'État comme un outil de propagande religieuse et morale, une logique d'autocrate sur laquelle les cinéastes vont commencer à jouer, usant d'un langage plus métaphorique pour contourner la censure. Les réalisateurs développent un langage symbolique et poétique. Ils mettent en scène la vie quotidienne, l'innocence des enfants ou la campagne qui deviennent des lieux de contestation implicite. Un cinéma qui commence à faire du bruit à l'international, notamment grâce au film Le Cycliste de Mohsen Makhbalbaf, une vraie parabole sur la précarité et l'aliénation sociale. La vraie bascule s'opère en 1997 à Cannes. Un cinéaste intrigue par sa mise en scène, caméra fixe, plan long, silence, dialogue dépouillé, accompagné d'une certaine sobriété narrative, véritable espace d'interprétation pour le spectateur. Ce réalisateur, c'est Abbas Kiarostami. Il vient d'Iran et présente en compétition son film Le goût de la cerise, l'histoire d'un homme en cherchant un autre pour l'enterrer. Lui s'est mis en tête de commettre un péché majeur, un thème interdit, mêlant un besoin de liberté et un désespoir sociétal. Le sujet du suicide, donc, au cœur de ce long métrage. Pas de jugement, juste des faits, une société est décrite de manière très brute. Le spectateur se fait avec sa morale, son idée du bien et du mal dans le film, sa force de projection et toutes les qualités préalablement décrites lui vaudront donc la première Palme d'Or iranienne, 28 ans plus tard portée par des œuvres phares comme La Pomme de Samira Makhmalbaf ou encore Un homme intègre, Les manuscrits ne brûlent pas et Le diable n'existe pas de Mohammad Rasoulov. Un nouveau film iranien sort donc vainqueur à Cannes. Sur la plus haute marche, Jafar Panahi, un ancien étudiant de cinéma à l'université de Téhéran, qui a servi de caméraman durant la guerre entre l'Iran et l'Irak, déjà récompensé en 95 donc de la Palme d'Or à Cannes pour son long métrage de la Caméra d'Or, pardon. À Cannes pour son long métrage Le Ballon Blanc, c'est un habitué des récompenses prestigieuses. Lion d'Or en 2000 à Venise pour Le Cercle, film qui dénonce les conditions des femmes en Iran. Ours d'Argent en 2006 à Berlin pour le film Hors-jeu, dans lequel il dénonce encore une fois la condition des femmes et plus précisément l'exclusion de ces dernières des stades de football en Iran. Et puis pour finir, L'Ours d'Or, cette fois-ci pour Taxi Téhéran en 2015, un grand film qui place la parole dans la société iranienne à travers ce taxi. Jaffa Panahi, c'est avant tout, vous l'avez compris, un opposant au régime en place. En 2010, il est condamné à 6 ans de prison et surtout une interdiction de filmer sur le sol iranien durant 12 ans. Bien sûr, il passe outre et filme en 2011. Ceci n'est pas un film. Avant de filmer son film ultime, Un simple accident, Panahi a appris de son expérience sur Taxi Téhéran pour à nouveau nous offrir un huis clos au sein d'un véhicule porté par ses dialogues. Le film est centré sur l'humanité, la question de la morale dans un pays dirigé par des gens qui n'en ont guère. Thriller haletant à la mise en scène léchée et à l'origine donc Un simple accident, tout est dans le titre. Un film bien évidemment politique, nul doute que la présidence de Juliette Binoche dans cette 78e édition du Festival de Cannes a eu son poids. Et moi, je vais clôturer cette chronique avec les quelques mots du réalisateur Jaffar Panahi après avoir reçu cette Palme d'Or.
C'est vraiment difficile de parler. Et je crois que c'est le moment pour demander à tous les gens, tous les Iraniens avec toutes les opinions différentes d'autres partout dans le monde, en Iran ou dans le monde, je me permets de demander une chose. Mettons tous les problèmes, toutes les différences à côté. Le plus important en ce moment, c'est notre pays et c'est la liberté de notre pays. Arrivons à ce moment ensemble que personne n'ose nous dire qu'est-ce qu'il faut mettre comme vêtements, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Et le cinéma, c'est une société. Personne n'a droit de nous dire qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois pas faire.
Merci beaucoup Mathéo pour cette chronique d'actualité, cette chronique qu'on retrouvera dans deux semaines. C'était donc l'avant-dernière, et la dernière, ce sera donc dans deux semaines. Encore merci Mathéo, et merci à notre invité d'être venu ce soir avec cette actualité unique mais ô combien importante, pleine d'émotions, pleine d'éphémérité. Est-ce que ça existe ce terme, puisqu'on parle de viluminologie, de bricoluminologie? Cette fois, c'était bon. On peut très bien dire parler d'éphémérité, peut-être, pour cet événement du 20 juin.
C'est vrai.
Amélie.
On pourrait parler de ça, d'éphémérité. D'éphémère, j'arrive même pas à le dire, tu vois.
Éphémère.
Éphémère.
IT. Ouais. L'éphémérité. Voilà, on fait plein de j'arrive pas non plus à le faire. Bon, en tout cas, les informations pratiques à retenir pour cet événement à la tombée du jour à partir de 20h, hein, pour une heure un peu plus précise, avec tout un programme qui va se dérouler et conclure, en fait, ça va être le point d'orgue de la saison 2024-2025.
Tout à fait, je sais pas ce que faut que je dise là-dessus, par
Eh ben, Flop et Julie, alors le programme, ça commence...
Ah, les infos pratiques,
voilà.
Ah, c'est ça.
Et le programme.
Et le programme, donc effectivement, ça se passe donc Viluminologie le 20 juin. Ça commence à 20h sur la place, sur le parvis de l'hôtel de ville. C'est cette place là.
À Saint-Bar, on est au THV hein, pour celles et ceux qui prennent en cours de route.
Tout à fait, à Saint-Bar, pas les îles, dommage, non, mais
c'est un peu plus loin ça.
Et 20h15, donc premier concert avec l'orchestre de chef. Puis 21h30, la fanfare de la Touffe, et on termine à 22h30, donc à la tombée de la nuit, avec cette petite balade poétique proposée par Flop, Julie et les participants à cette dernière date de la saison.
Et ben voilà qui est dit, dernière date, mais pas la dernière pour le THV et Topette. On se retrouve à partir de septembre-octobre en fonction des dates de la rentrée de l'émission. En tout cas, la saison 2025-2026 est déjà quasiment complète et on a hâte d'en découvrir un petit peu plus. Merci beaucoup Amélie d'être passée dans Topette ce soir. Bon, j'essaie de trouver un nouveau mot, mais bon été, tout simplement. Et puis bah, bonne soirée le 20 juin. Merci. On se retrouve dès le début de la saison prochaine. Nous on se retrouve demain avec Théophile et puis J'ai perdu et puis la compagnie du poulpe avec vous Suzanne et toi, enfin toi Suzanne et toi Maxence. Mathéo, on se dit rendez-vous dans deux semaines et on va se quitter avec une petite interview de Corinne Dubreuil qui prend des photos à Roland-Garros. C'était dans le cadre de millième de seconde, le festival qui avait lieu à Saint-Mathurin-sur-Loire, puisque bah il y a eu la fameuse grande finale entre Raphaël Nadal, n'importe quoi Maxence, j'ai besoin de toi,
Carlos Alcaraz et Yannick Sinner.
Voilà, mais elle parle de Raphaël Nadal, c'est pour ça. Allez, prenez soin de vous, à demain 18h10, Topette.
Quand j'étais donc jeune, je jouais au tennis, j'avais un oncle photographe qui m'a mis un appareil photo dans les mains à 11 ans et j'ai dit à mes parents, je veux être photographe de tennis.
Passionnée de tennis et de photos depuis toute petite, Corinne Dubreuil traîne sur les cours depuis plus de 30 ans. Tous les ans, elle suit le circuit international, notamment les tournois du Grand Chelem. Ses photos sont mises à l'honneur dans le cadre du festival Millième de Seconde à Saint-Mathurin-sur-Loire. Une interview réalisée par Pierre-Benoît Leclerc.
Je suis allée à Roland-Garros, j'avais 16 ans. J'ai beaucoup aimé une joueuse qui s'appelle Chris Evert et j'ai fini par la rencontrer, par pouvoir la joindre et avoir des places pour aller sur des gros événements comme Wimbledon, etc. Donc je loupais l'école, j'allais faire des photos, je vendais ces photos à des fans de tennis et ça me permettait de voyager un peu. Et mon rêve était de travailler à Tennis Magazine. Ce qui s'est passé 3 ans plus tard, en 1990, septembre, je suis rentrée dans ce journal, donc j'ai réalisé mon rêve. J'avais 19 ans, donc c'était vraiment jeune. Et j'y suis restée quelques années jusqu'en 2004, et depuis je suis freelance, indépendante.
Ce qui est étonnant, c'est que tu joues au tennis à la base.
Ouais.
Souvent, le premier rêve qui pourrait se former, c'est de se dire « je veux être tennis woman », du coup. Mais non, toi, c'est vraiment la photo. T'as accepté de t'être en retrait, puisqu'on est dans l'ombre, finalement.
Ouais, mais pour être sportif de haut niveau, faut avoir un peu de talent. J'en avais pas en tennis, je m'amusais simplement. Je prenais du plaisir à aller dans un club de tennis avec les copains, tout ça. J'y passais mes mercredis, mes week-ends. Mais vraiment, ce qui m'a plu, c'est essayer de capter des moments, de retranscrire ce que je voyais avec mes émotions à moi. Utiliser par exemple un premier plan avec des spectateurs qui vont faire une ombre chinoise, une barrière, c'est pas mal de choses et je pense qu'en sport on le voit dans l'expo sur le patinage ou même sur celle sur le Paris-Dakar, il y a beaucoup de photos qui sont faites du haut. En fait, un peu, on va dire, vue du ciel. Alors, en tennis, c'est depuis des passerelles ou des promenades sur les courts, les gros courts. En fait, je crois que c'est assez simple. On aime que l'image, elle soit assez pure. La publicité, on en a besoin pour faire vivre un événement. Mais nous, photographes, on la déteste sur nos photos. Donc, on va essayer de rendre l'image plus esthétique et le fait de s'élever aussi... ça apporte ce petit supplément, ça apporte une ombre, ça apporte un graphisme. Et voilà, moi j'aime bien aller chercher ça. J'aime bien essayer de prendre le temps de montrer autre chose que ce que l'œil va capter. Voilà, d'utiliser un peu tout ce qui est à notre disposition sur un court de tennis pour montrer le sportif différemment.
Corinne, est-ce qu'il y a une photo dont tu es particulièrement fière ?
Ouais, c'est une question qui revient souvent. Il va y en avoir plusieurs, il n'y en a pas une. Souvent, elle est quand même liée à ce qu'il se passe sur le terrain. À force de voir tous ces joueurs, tous ces champions, il y a forcément certaines affinités qui se créent. Et moi, ça me touche bien. Enfin, si j'ai quelqu'un sur le terrain que j'apprécie, je vais être d'autant plus sensible. Et donc, on va dire que ce sont des photos qui sont liées à des moments avec des joueurs particuliers. Mais il n'y a pas une photo.
Est-ce qu'il y a une affinité particulière avec un champion qui t'a plus marqué qu'un autre?
La toute première, c'est forcément Chris Evert. Donc ça, c'est mes tout débuts. Mais c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on se croise encore. Elle est consultante pour une télé américaine. Donc on continue à se voir et c'est toujours très drôle. 35 ans plus tard, voilà. Donc elle est au courant de l'histoire. Enfin, c'est chouette. Et puis avec le temps, forcément... Au niveau des Français, moi je me souviens avoir commencé en même temps que Amélie Mauresmo, qui est aujourd'hui directrice de Roland-Garros. À l'époque, elle avait 11 ans, moi j'en avais 19, et on s'est suivis comme ça. Et donc j'ai suivi toute sa carrière, j'ai fait beaucoup de photos sur le court et en dehors. Et aujourd'hui, c'est on veut dire une amie. Après, ce sont des connaissances, des affinités. Joe Wilfried Tsonga, un gars comme Stan Wawrinka, le Suisse. Après, mais c'est vrai que si je croise un Roger Federer ou un Nadal ou un Djokovic, on va se saluer.
On a l'image du champion ou de la championne qui est un peu inaccessible. Et en fait, il y a cette proximité réelle qui existe quand même.
On se suit toute l'année. On est aux mêmes endroits. On a un peu la même vie de nomades. Enfin, eux voyagent beaucoup plus que nous, mais c'est déjà pas mal. Et donc, ils sont habitués à nous voir. Et puis, à force de nous voir, je pense qu'il y a quand même une certaine confiance qui s'installe. Et je pense qu'en ce qui me concerne aujourd'hui, si je peux avoir... peut-être plus de facilité que d'autres à avoir certaines photos avec des champions. Je pense que c'est tout ce passé, toute cette expérience qui fait que je vais pas faire une crasse, je vais pas faire une sale photo, je vais toujours mettre en avant la personne, quoi.
Une anecdote ou pas de un couac, un imprévu qui aujourd'hui sur le moment ça t'a peut-être un peu fait stresser et puis finalement
une fois on m'a volé mes appareils photos sur un tournoi. C'était en Floride. J'étais dans une salle de presse, j'avais posé mes appareils, je suis allée chercher à manger, je suis revenue, il restait que les objectifs. C'était le troisième jour du tournoi. Donc en fait, quelqu'un d'accrédité a dévissé les objectifs et parti avec les boîtiers. Ça a choqué beaucoup de gens, les joueurs, etc. Donc une joueuse, Alizée Cornet, française, qui a été touchée par ça, a décidé de lancer une cagnotte en ligne pour que je puisse me racheter des appareils photos. Donc plein de gens ont participé et j'ai pu me racheter des appareils photos quelques semaines plus tard. Donc ça, c'est une anecdote, voilà. Mais on m'en parle souvent et des gens lambda que je croisais après les mois qui ont suivi m'ont dit « Ah Corinne, vous avez pu vous racheter, moi j'ai participé. » Donc voilà, c'était vraiment très touchant et ça reste un souvenir important pour moi. Non, après, il y a la photo, on sait que ça fait du bruit ou ça faisait du bruit. Et le sportif, il a besoin aussi de se concentrer. Et par exemple, en tennis, dans les gradins, il y a le silence. Mais les appareils photo faisaient du bruit. Et donc, ça agaçait pas mal de joueurs. Aujourd'hui, avec justement la nouvelle technologie, etc., on a cette chance de passer complètement inaperçu. Et ça, c'est un confort incroyable. Ça date d'il y a un ou deux ans. Et voilà, parce qu'on a vu quelques joueurs s'agacer fortement au bruit de l'appareil photo.
Il y a pas eu des pannes d'inspiration au bout d'un moment?
Ça fait quand même des années que je fais ça et j'ai fait un petit enchaînement un peu trop lourd de 22 jours juste avant Roland-Garros. Et j'avoue que je suis arrivée à saturation et c'était la première fois depuis 37 ans, c'était mon 36e ou 37e Roland-Garros, où je suis arrivée un peu fatiguée, un peu lassée. Et donc il m'a fallu quelques jours où on m'a fait faire d'autres choses que des coups droits et des revers. J'ai fait des coulisses, donc ça m'a redonné un peu la pêche, etc., et l'envie de retourner au bord du court. Mais oui, c'est pas toujours évident d'aller chercher de nouvelles choses quand on connaît un stade à peu près par cœur, un joueur. Mais voilà, c'est toujours une passion. J'ai toujours envie, mais il y a des jours où c'est plus compliqué.
Corinne, ton regard sur cette initiative prise par Jocelyn et puis Eddy de proposer un festival de la photographie dédié au sport.
Eh ben personnellement, je trouve ça vraiment formidable parce que c'est un sacré boulot et tout ça pour mettre en avant et en lumière des sports et des photographes. Donc quand Eddy m'a contacté pour me parler de ce projet, j'ai tout de suite adhéré. Enfin, je trouve ça aussi génial pour une région, pour une ville, un village. Ça crée une animation, une émulation. Et mais voilà, moi je trouve ça vraiment super de raconter des histoires à travers son travail avec des gens là qui ont les yeux grands ouverts et qui posent des questions et parfois on est un peu dérouté aussi par les questions. Pour nous c'est une évidence, mais eux ils découvrent une photo, l'envers du décor, et ils aiment qu'on leur raconte des histoires. Donc je trouve ça génial. En plus c'est très varié, c'est le lieu est magnifique, la ville est superbe, en bord de Loire. Je me suis baladée tout à l'heure, franchement c'est très beau. Non, voilà, félicitations à tout le monde et c'est une, j'espère que c'est un festival qui va perdurer dans les années qui viennent.
Et l'ultime question, tu joues encore au tennis ?
Non, j'ai pas joué depuis des années, j'ai rejoué il y a 2 mois, c'était très dur physiquement, mais ça me titille un peu, ça me fait envie, ouais, ouais, j'aime bien.
Tu t'es jamais fait le kiff de jouer contre Amélie Mauresmo ?
Je pense que j'ai tapé des balles comme ça. Après, non, je me souviens pas. Non, j'ai pas cette prétention d'aller taper avec eux.
Merci en tout cas, Corinne.
Avec grand plaisir.
Le festival Millième de Seconde à Saint-Mathurin-sur-Loire a lieu tous les ans et met en lumière le métier de reporter photographe autour d'un thème commun, le sport. Plus d'informations sur millième de seconde au pluriel.com.
Une méchante larme fait dans mon âme une plaie ouverte. Je me sens sec et vide comme une terre aride, j'ai pas la main verte. Je trouve que tout est con, rien ne tourneront à parler vautour. Mais je tiendrai bon si je touche le fond, je ferai demi-tour.
J'entends plus le chant des piafs. Tu m'aimes. Je fais même plus gaffe. Si je suis dingue quand le monde se déglingue, vais-je mal ou bien suis-je normal? Je suis triste et furieux.
Radio G, Radio G, Radio G, 101.5 FM.
Savourez nos différences.